Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
Léa Clermont-Dion est réalisatrice, autrice et chercheuse postdoctorale à Concordia. Salut Léa.
Salut Alexandre, ça va bien?
Oui, très très bien. Toi aussi?
Ben oui, je suis à Sandbank.
Oh, la chanceuse!
Mes vacances, oui, au soleil pour te parler.
Ah ben c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est un beau coin pour y être déjà allé aussi, c'est bien. T'as le soleil avec toi, oui?
Oui, mais t'as aussi le soleil dans ta voix, là. Moi, je trouve qu'on est très ensoleillé ce matin.
C'est parfait. Faut l'être parce que on traite quand même là, des sujets difficiles et des sujets sérieux. La condamnation, entre autres, du chanteur R. Kelly s'est tombée au cours de la journée de mercredi. 30 ans de prison. On parle de trafic, abus sexuels sur des filles, des femmes. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette sordide histoire de R. Kelly?
Ben, moi, je pense que le MeToo n'a pas échoué. Et ça, c'est peut-être une déclaration fracassante suite au grand débat qui a eu lieu suite au procès de Amber Heard et de Johnny Depp. Mais moi, je trouve que le cas de R. Kelly, ça donne espoir. Il faut replacer un peu le personnage pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. C'est un peu un monstre sacré du R&B, surtout dans les années 90. C'est un peu son apogée. Il a reçu plusieurs Grammys. Il a écrit même une chanson pour Michael Jackson. Bref, il est un auteur de succès, de hit. Et ça, faut pas l'oublier. Donc, il était sur un peu un piédestal aux États-Unis. Il était adulé. Puis, il y a eu plusieurs scandales d'agression sexuelle qui ont un peu ombragé son parcours. Et ça, dès les années 90. Là. Il a produit Alexandre, je sais pas si tu te rappelles. Ben, moi, je me rappelle pas c'était qui. Aaliyah, c'est un artiste. Il était son protégé. Okay. Puis là, il y avait des rumeurs qui disaient que, bon, il avait marié de force à 15 ans. Il y a eu des dénonciations. Il y a rien qui a été fait. Là, ça a été la première mise sous silence. En 2008, Kelly est aussi accusé d'une affaire de pédocriminalité, mais là, il est acquitté. Encore une fois, donc, un acquittement, ça passe sous le radar. On continue finalement un peu, il continue son chemin, il continue à produire de la musique. Ça a repris finalement d'autres poursuites pour qu'on commence à s'éveiller un peu, à se questionner. Il y a eu 6 autres poursuites après ces deux affaires-là qui se sont aussi soldées par un acquittement. Mais c'est finalement en 2019, quand il y a le documentaire que tu as peut-être vu, je ne sais pas si tu as vu, Alexandre, Surviving R. Kelly, qui est sorti en 2019.
Non, je ne l'ai pas vu, celui-là.
Écoute, ouais. Ben, écoute, on en a tellement d'histoires comme ça qu'on est un peu plus capable, mais c'est un documentaire qui dévoile vraiment toute l'emprise de Kelly sur ses victimes. C'est un système, tu sais, ça me rappelle un peu à Epstein, justement.
Jeffrey Epstein, celui-là, je l'ai vu, le documentaire Filthy Rich, là, entre autres, là, sur Netflix, puis ça nous démontrait, puis c'est intéressant que tu fasses un peu le parallèle. On avait l'impression que c'était pratiquement pyramidal, hein?
Exactement.
Ouais. Tu sais que, par exemple, bon, qu'une jeune fille qui se faisait, bon, entraîner dans tout ça, finalement, ben, retournait dans son école secondaire en recrutait d'autres. C'était un peu ce phénomène-là, là, dans le cas d'Epstein. R. Kelly aussi, Léa?
Mais il y a un peu cet aspect-là, effectivement, d'utiliser son ascendance et son pouvoir pour organiser un système. Tu as dit le mot système pyramidal, puis j'aime ça parce que c'est un peu une façon qu'ont les prédateurs sexuels comme R. Kelly ou Epstein de se construire, en quelque sorte, excusez-moi du terme, mais un harem, et d'abuser des victimes. Mais finalement, Alexandre, moi, je vois la lumière au bout du tunnel parce que après toutes ces affaires-là, et surtout après le documentaire qui est sorti en 2019, il y a eu d'autres accusations, il y a eu d'autres, plaintes. Et finalement, hier, le tribunal fédéral de Brooklyn a condamné Kelly pour 30 ans de réclusion en prison pour notamment pédopornographie, corruption, trafic sexuel. Il y a 45 personnes qui ont témoigné au procès. Puis moi, ça me donne vraiment espoir parce que je me dis finalement, MeToo aura donné ça. Des hommes de pouvoir qui ont été acquittés à plusieurs reprises, ben finalement, peut-être que le vent change et que ces gens-là sont imputables aujourd'hui. Et ça, sont plus imputables aujourd'hui. Et ça, c'est un changement de culture qui nous est vraiment offert et c'est un legs de MeToo.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est important de le souligner. Autre grande décision qui a été rendue au cours des derniers jours, c'est celle de la Cour suprême aux États-Unis. Et vraiment, là, c'est on pensait pas qu'on allait nécessairement devoir reparler à ce point-là. Il y a des gens, on a vu des manifestantes là, qui sont descendues dans les rues en disant « Je me suis battu pour le droit à l'avortement aux États-Unis dans les années 60-70. » Puis encore une fois, faut que je retourne dans la rue à la suite là, de cette décision de la Cour suprême de évoqué Roe contre Wade, essentiellement qui garantissait aux femmes, aux Américaines, le droit à l'avortement dans leur État. Et les choses ont déboulé assez rapidement, Léa, par la suite.
Mais c'est fou ce qui se passe en ce moment. Puis moi, je te parle en ce moment et j'ai des frissons comme femme, mais pas juste comme femme, comme citoyenne.
Ah, je comprends.
Même si les ouais. États-Unis, ce n'est pas le Canada, il faut le rappeler. Écoute, ce qui vient de se passer, c'est historique. Pour moi, c'est aussi un cataclysme un peu de la polarisation entre les perspectives aux États-Unis. Tu sais, c'est comme si j'écoutais un super podcast de Daily du New York Times. Mm-hmm. On racontait un peu comment, en ce moment, la société américaine se cristallise autour de grands enjeux qui vont amener des fracas, qui vont diviser. Et là, l'avortement, c'est comme si c'était le sujet de l'heure. D'ailleurs, juste te dire, ou je ne sais pas si tu étais au courant, probablement que oui, mais cette fameuse dame, Jane Roe, qui a un autre nom dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, j'ai oublié le nom de la madame, mais cette dame-là, elle-même qui voulait avoir un avortement, elle est devenue finalement pro-vie, donc elle est maintenant contre l'avortement. Donc c'est pour te dire un peu comment la société américaine est schizophrénique là-dessus. Mais moi, j'aimerais qu'on attire notre attention en fait sur le Canada, parce que on sait qu'aux États-Unis, c'est un autre contexte. Puis on nous dit, oui, mais il faut pas avoir peur. Au Canada, ça va bien.
Non, mais il y a des mouvements ici, là, contre l'avortement. On en voit, là, même dans les différentes formations politiques, il y a des candidats qui s'affichent très, très, très ouvertement contre l'avortement, tant au provincial qu'au fédéral.
Ben effectivement, puis il y a au Canada le Campaign Life Coalition qui est très très actif. C'est une organisation qui est peut-être pas majoritaire au Canada, évidemment, parce que seulement 14% des Canadiens, selon l'Association d'études canadiennes, sont contre l'avortement. Mais c'est un regroupement qui s'organise, qui sont forts en termes de stratégie de communication. Puis faut-il rappeler que Paul Hiers, donc le candidat à la chefferie du Parti conservateur, bon, a pas été nécessairement clair sur sa position sur l'avortement, mais on sait que les pro-vie au sein de son parti ne vont pas voter pour Jean Charest, ils vont voter pour Paul Hiers. Donc ça devient un enjeu même de campagne électorale, à mon avis. Mais je veux juste quand même rappeler aux gens qui nous écoutent que la Cour suprême au Canada a quand même un rôle et une fonction qui diffère légèrement des États-Unis. Parce que aux États-Unis, la Cour suprême, elle est effectivement très partisane. On peut pas dire que la nomination des juges est neutre aux États-Unis, alors qu'au Canada, on veut rappeler un peu à la population que c'est pas comme ça que ça se passe. Même le juge en chef, le juge Richard Wagner, c'est très important pour lui de rappeler que les institutions juridiques, ben il y a une distance entre le politique, etc. Donc, ça serait étonnant que ça bascule au Canada. Par contre, il faut rappeler qu'il y a plusieurs projets de loi, 50 projets de loi depuis la légalisation de l'avortement depuis 88 qu'on a tenté de les faire adopter au Parlement pour contrer l'avortement. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est non plus, que tous nos acquis sont là au Canada. Il faut rester vigilant, mais on ne peut pas se comparer nécessairement aux États-Unis. Où je dois le rappeler, Alexandre, il y a quand même des médecins qui faisaient des avortements qui ont été assassinés dans les 10 dernières années. Ça, c'est le grand paradoxe. Ça,
c'est incroyable.
Mon avis.
C'est vraiment incroyable. Mais quand on regarde ça, moi, je me questionne beaucoup aussi sur la sécurité de ces Américaines qui vivent parfois dans des États qui, déjà en raison de ces trigger laws, de ces espèces de lois gâchettes, dès que la Cour suprême agissait, ben là, ils rétablissaient ces interdictions. Il y a des femmes qui vont mettre leur sécurité en danger pour aller se faire avorter ailleurs. On peut même, je voyais en fin de semaine dans les manifestations, tu sais, devant les palais de justice, là, toutes sortes de pancartes, notamment avec ce fameux cintre, ce fameux support qui aurait été l'espèce de symbole là, de cette souffrance là, de ces avortements, de ces femmes chez nous, là, pas aux États-Unis, là, des femmes chez nous, il y a plusieurs années, qui ont dû être vraiment hospitalisées parce qu'elles, tu sais, je veux dire, elles s'étaient auto-infligées des blessures. Alors, tu comprends? Moi, je me questionne vraiment, je me questionne vraiment sur la sécurité de ces Américaines-là. Puis c'est cette question aussi de se dire, comment ça se fait qu'en 2022, c'est encore des vieux bonhommes qui vont décider de ce que les femmes font avec leur corps? Me semble, ça m'apparaît complètement indécent, ça,
Léa. C'est indécent, puis en plus, ce qui est fou, c'est qu'effectivement, il va avoir des blessures, il va avoir, je veux dire, c'est complètement paradoxal comme discours. En fait, c'est un discours qui est absolument, à mon avis, irrationnel, qui se base sur des croyances religieuses. Franchement, je trouve ça ridicule. Puis, tu sais, je fais en ce moment un documentaire sur Jeannette Bertrand, Alexandre, puis j'interviewais Jeannette, puis elle me parlait justement de ces filles qui faisaient des avortements illégaux il n'y a pas si longtemps au Québec. Je veux dire, on enseignait, on en mourait. Et qu'adviendra-t-il aussi de ces victimes d'inceste, de ces victimes de viol qui devront porter le bébé? Je veux dire, c'est quoi? Elles vont devoir vivre avec ça? C'est pour moi inhumain. C'est un cauchemar. Et j'ai l'impression que Margaret Atwood et Diane Metzfeld, c'est pas si loin de la réalité. Et c'est supposé être une dystopie. Donc, moi, je suis très inquiète. En même temps, je me dis, bon, au Québec, on est quand même bien desservi. Mais, petit bémol, il y a une cinquantaine de cliniques d'avortement au Québec qui existent, mais dans plusieurs régions éloignées, il y a un seul service.
Exact.
C'est compliqué de se rendre. Mm-hmm. Tu sais, quand t'as la honte autour de toi, là, pis t'as pas envie d'y aller, t'es toute seule, tu sais, une jeune femme de 16 ans, là, qui s'est fait violer pis qui voudrait avorter, ben, peut-être qu'elle va se dire, ah, c'est peut-être pas bien vu, tu sais. C'est peut-être pas ça qu'il faut que je fasse, peut-être qu'il faut que je le garde. Alors bon, j'ai l'impression que ça va. On n'a pas fini d'en entendre parler de ça.
Non, t'as entièrement raison. Puis tu fais bien de le souligner pour les régions parce qu'il faut de l'accompagnement. Il faut davantage d'accompagnement. Puis l'accès, entre autres, à ces cliniques-là, il y a encore du chemin à faire. Même chez nous, même au Québec, alors qu'on se dit quand même une société ouverte là pour la suite des choses. Revenons dans un tout autre registre là sur et ça c'est gros pour le monde culturel, la fermeture du plus grand distributeur de films au Québec.
Oui, ben moi, ça me touche personnellement parce que je vais lancer un long métrage, en fait, à l'automne, un long métrage documentaire justement qui s'intéresse et qui porte sur la montée de l'extrémisme antiféministe. Et, en tout cas, bref, ça touche le sujet de l'avortement. Alors, je suis ça de près depuis plusieurs années, en fait, cette question du cinéma puis de l'industrie cinématographique et de la distribution parce que je vois autour de moi des acteurs du milieu, et là je parle pas des acteurs de théâtre, mais vraiment des gens qui sont impliqués dans le milieu, qui voient l'industrie aller très très mal. J'étais à un rassemblement dernièrement qui s'appelle Ciné Québec, qui est le rassemblement des acteurs de cinéma de l'industrie, et il y a beaucoup de propriétaires de salles qui sont sur le bord de la faillite suite à la pandémie. Puis j'ai l'impression qu'on n'en entend pas vraiment parler. C'est comme si on prenait pour acquis que le cinéma, excuse-moi, j'ai-tu dit le cinéma?
Ça doit être le soleil, Léa.
Ah, écoute, c'est mon coup de soleil. Donc, non, mais que l'industrie du cinéma va très mal. C'est pas drôle, ça va pas du tout. Alors, quand j'ai vu que le plus gros distributeur de films au Québec, qui est CV, qui a porté des projets rassembleurs comme Mommy, Mafia Inc., les films de Monia Chokri, fermait, écoute, c'est vraiment un jour sombre pour l'industrie cinématographique. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Parce que derrière cet essoufflement-là, on a tous les scénaristes, on a les réalisateurs, on a les distributeurs, justement, ceux qui vendent les films aux salles. Toute la chaîne est affectée et est au bout du rouleau. Tout le monde survit en ce moment pour y arriver. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a plein de premières de films qui ont été reportées.
Ouais.
Puis là, on apprend que Caroline, le plus grand distributeur, n'existera plus. Alors, qu'est-ce qui va arriver de nos films? Déjà que nos films ne sont pas très vus, tu sais, au Québec. C'est pas, c'est compliqué à être vu
c'est
et entendu dans les salles.
Comment on explique ça? Moi, c'est ben moi je sais pas si je suis peut-être pas normal là. Mais ouais. Moi, c'est un des dans mes par exemple quand je retourne au cinéma après la pandémie ou quoi que ce soit, j'avais hâte de voir certains films québécois. Il me semble que le cinéma de chez nous, on se doit de l'encourager, on se doit de le découvrir, puis on fait des sacrés bons films chez nous, des sacrés bons documentaires.
Mais non, ben j'ai l'impression que aussi, bon, premièrement, ça devient une activité. Une grosse pour une famille, là, aller au cinéma, c'est compliqué. Donc, c'est sûr qu'on est à un clic de Netflix, Disney, etc. Donc, je pense qu'il y a une transformation culturelle qui est vraiment majeure. Et j'écoutais Thierry Frémaux, qui est le directeur de programmation de Cannes, qui disait il faut revaloriser le cinéma est important. Puis même lui, dans son festival, il a intégré TikTok. Il y a une branche du festival qui est vraiment axée sur les réseaux sociaux. Donc j'ai l'impression qu'on a un rapport qui est très différent au cinéma, puis le puriste qu'on avait n'existe plus. Après ça, c'est des habitudes de consommation, c'est compliqué de sortir en famille, ça coûte de plus en plus cher aussi. Je veux dire, faut pas sous-estimer le prix d'un billet. Aller voir un film de Disney, c'est une chose. Aller voir un film de notre, je dirais, patrimoine, de notre culture, etc., ben là, faut payer la gardienne. Alors, c'est comme un engagement qui est plus compliqué à l'ère de la pandémie. Donc, je pense qu'il y a, il y a ce facteur-là économique, il y a le facteur de santé publique. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on se questionne sur qu'est-ce qu'on veut faire avec notre cinéma. Tu sais, je suis désolée, mais le dernier gala, le gala, voyons, Iris, n'était pas nécessairement à la hauteur du travail des artisans. Ça serait le fun de redonner un petit peu de glamour à tout ça, parce que finalement, le cinéma, c'est l'ADN, je dirais, d'un peuple, et on rayonne à l'international par nos films. Moi, j'aimerais ça qu'on célèbre davantage ça, et je crois que ça prend des deniers publics pour y arriver. Donc, peut-être qu'il y a vraiment une réflexion à y avoir sur ce qui sont l'avenir de cette industrie-là, qui, comme je l'ai dit, est une corde sensible, un élément rassembleur. Ça peut l'être, en tout cas.
Alors, parlant de glamour, je te laisse retourner là, à ta plage avec ton petit mimosa là, à Sandbank, chanceuse.
Et on se reparle la semaine prochaine. J'ai vraiment vu un mimosa. C'est pour ça que je dis cinéma, les délatistes bizarres.
Mais c'est une très belle heure pour prendre un mimosa, sache-le.
Salut, Léa. Je suis prête à ça. Bon, ben merci. Bye-bye, Alexandre.
Bye, à jeudi. Salut.
Bye.